En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Donc, je ne me livrerai pas une présentation plus longue que pour les autres. Je sais que ce sont des habitudes, m'a-t-on dit, anglo-saxonnes, comme on dit en France, où celui qui présente le futur orateur se doit de sortir au moins un joke. Eh bien, je ne le supporte pas. Donc, je m'en abstiendrai. Je vous passe,
merci
la parole.
Était plutôt probable. Presque aussitôt après commence donc le blitz de septembre 40 à mai 41. C'est l'apparente continuation de la bataille d'Angleterre, mais poursuivie avec d'autres moyens, des attaques de nuit, non plus de jour, contre d'autres catégories de cibles, portuaires et industrielles, avec d'autres buts à l'esprit. La Luftwaffe a certes certains atouts en main, et notamment un système de radio-guidage permettant justement de bombarder la nuit. Et c'est une technique pas tout à fait sans précédent, mais inédite à cette échelle. Là aussi, le Blitz, on peut le qualifier grosso modo d'un échec, grâce... Bien entendu, les Britanniques adorent célébrer leur résilience symbolisée par la cathédrale Saint-Paul, symbolisée aussi par cette approche « business as usual » sous les bombes. Mais il y a des raisons un peu plus concrètes à la survie de l'Angleterre. Tout d'abord, la faible capacité des bombardiers bimoteurs allemands. 75 000 tonnes sur toute la guerre, c'est beaucoup par rapport à ce qui a précédé, mais peu par rapport à ce que les Alliés vont déverser sur l'Allemagne. D'autre part, j'ai évoqué ce matin un learning curve, et je crois qu'il y a un learning curve, une courbe d'apprentissage assez rapide pour les Britanniques, à la fois en matière de défense passive, car le mois le plus meurtrier du Blitz, c'est octobre 40, juste après son début, et donc au début de ce learning curve, mais aussi dans la mise en place d'un système de brouillage des systèmes de radioguidage allemands, et puis le développement à partir du printemps 41 d'un système de chasse de nuit relativement efficace et radioguidé. D'autre part, le Blitz souffre d'un manque de clarté sur les effets escomptés. S'agit-il de provoquer l'effondrement de l'économie britannique, de forcer la reddition en brisant le moral des populations, d'imposer un blocus aérien en privant le Royaume-Uni de ses importations essentielles, d'affaiblir les capacités de production britannique en vue d'une nouvelle invasion une fois terminé et gagné le combat contre l'Union soviétique? Je ne suis pas certain que le haut commandement allemand était capable de répondre à ces questions. Tout au plus, mais ce n'est pas rien, tout au plus, le Blitz aura réussi à mettre le Royaume-Uni sur la défensive au moment où l'Allemagne préparait l'invasion de l'URSS. En ce sens, il peut être considéré comme utile et non pas opposé, comme l'on dit souvent, à ce grand projet d'Hitler, mais comme, en quelque sorte, son complément. Mais évidemment, il prend fin avec l'invasion de l'URSS le 22 juin 1941. D'une toute autre envergure est l'offensive alliés contre l'Allemagne, la fameuse Combined Bomber Offensive, dont vous voyez un peu les dimensions ici. Alors, la première chose à constater, c'est que d'un côté, les bombes allemandes sur la Grande-Bretagne, je répète, sur toute la guerre, y compris les armes V1 et V2, 75 000 tonnes. Les bombardements alliés sur l'Europe continentale, selon the United States Strategic Bombing Survey, plus de 2,5 millions de tonnes. Et ce sont, comme vous le voyez aussi, c'est partagé à peu près à parts égaux entre la Royal Air Force et les Américains, avec un léger avantage pour ceux-ci qui ont quelque 53% du total. Bien sûr, et le tableau le montre assez bien, cette offensive ne s'engage pas du jour au lendemain. Il y a une phase de montée en puissance de 40 à 43, et puis une phase de, disons, de vitesse de croisière. Au début, le Bomber Command de la RAF, malgré ses ambitions stratégiques, est assez piètre comme organisation. L'attaque la plus emblématique, pour moi, c'est sans doute le bombardement de Marseille en décembre 1940. Marseille, c'est dans la zone libre. Et avec les bombes, la petite escadrille d'avions britanniques déverse des tracts. Et le titre de ces tracts, c'est « La maledizione di Garibaldi ». Les tracts sont en italien. Vraisemblablement, l'escadrille britannique avait pris Marseille pour Gênes, par exemple. Et d'ailleurs, le gouvernement de Sa Majesté s'en excuse formellement auprès du gouvernement de Vichy et verse au printemps 43 une compensation. Bon, de ces débuts très peu prometteuses, on enchaîne au cours de l'année 1942 avec notamment l'arrivée des quadrimoteurs, les Stirling, les Halifax et surtout les Lancaster, des aides à la navigation qui mettent l'attaque sur Marseille définitivement dans le domaine du passé, et bien entendu l'arrivée d'un chef autrement plus agressif, Sir Arthur Harris, que Picture Post avait eu l'idée de présenter pour le rendre peut-être moins terrible avec un petit canton. Vraisemblablement, ça n'a pas très bien marché. Alors, dès 1941, à défaut d'atteindre des cibles précises, on envisage le bombardement de zones et qui atteindrait le moral des ouvriers industriels, sans qu'on sache vraiment en quoi consiste ce mot oral, moral. Le bombardement de zones prend des villes entières comme des ensembles interdépendantes économiques, évidemment plus faciles à frapper que des cibles précises. Excusez-moi. Voilà. C'est donc une autre page de Picture Post où on imagine l'offensive à venir. Puis, en août 1941, c'est le début de l'arrivée des Américains, en France d'abord, tout au long de l'année 1942, puis l'Allemagne l'année suivante. Eux, par principe et grâce au viseur Norden, croient pouvoir bombarder avec précision. Le fameux combined... Pardon, excusez-moi, j'ai raté, je ne retrouve plus. Oui, il faut quand même souligner non seulement la montée en puissance des attaques, mais aussi la production britannique et américaine. Et je crois qu'il y a deux ou trois éléments à retenir de ces deux tableaux. D'une part, une montée relativement lente à partir de 40 de la production totale britannique et une montée très brusque de la production américaine qui dépasse la production britannique dès 1942, mais d'autre part, la part croissante des bombardiers en unité, mais surtout aussi en poids, la colonne de droite de l'effort total de production. C'est une montée quasiment continue à partir de 1941. Plus de la moitié de la production américaine en poids dès 1941 est représentée par les bombardiers. Cette image de Willow Run montre très bien la production en masse qu'atteint les Américains. C'est l'une des photos les plus impressionnantes de l'effort de guerre américain, je trouve. Tout cela aboutit à Casablanca au lancement, disons officiel, de la Combined Bomber Offensive, où la RAF bombardant de nuit, pratiquant des bombardements de zone, et les USA pratiquant des bombardements de jour, ne sont pas vraiment combined parce qu'il y a très peu d'échanges entre eux, mais au moins en principe un peu complémentaires. Alors, pour revenir au tableau principal, l'offensive à son rythme de croisière appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, les seules années 1944-45 représentent 82,5% du total. Pour la seule Allemagne, 63,5% des bombes tombent en 8 mois, entre septembre 1944 et la reddition de mai 1945. La distinction pendant cette offensive entre les bombardements de zone et les bombardements de précision reste imparfaite parce que le viseur Norden se révèle moins précis au-dessus de l'Europe que dans le ciel clair du Midwest américain. Et du côté de la RAF, il y a quand même des efforts considérables pour permettre une plus grande précision afin justement de pouvoir, et je cite, brûler une ville de bout en bout, sans nécessiter une visite de retour non rentable. Néanmoins, la distinction entre, d'une part, les bombardiers américains, qui visent, surtout pendant les derniers mois de la guerre, des cibles relativement précises, comme l'industrie du pétrole synthétique et les transports, et le Bomber Command de Harris, qui continue à viser des villes entières, cette distinction reste valable. Alors, quel bilan faire de la Combined Bomber Offensive? Le passif d'abord, évidemment les affirmations extravagantes des barons de l'aviation alliée, selon lesquelles les bombardements seuls suffiseraient à mettre l'Allemagne à genoux, se sont révélés parfaitement irréalistes. Faut-il rappeler qu'en février-mars 1945, les forces terrestres de l'Ouest, américains, britanniques, français, subissent 96 000 morts et blessés en février-mars. C'est la démonstration de la capacité que conserve l'Allemagne à livrer combat, sans compter les Russes. Le moral des Allemands, bien entendu, n'a pas craqué sous l'offensive des bombardiers. Le bilan économique est nuancé, selon John Kenneth Galbraith, économiste américain célèbre qui a participé au United States Strategic Bombing Survey. L'offensive était bien plus coûteuse aux Alliés que pour le Reich. Il faut ajouter aussi le bilan humain. Rien que pour l'Allemagne, 420 000 morts au bas mot. Et des terribles tempêtes de feu, comme par exemple à Hambourg ou à Dresde. Il y a peu de doute que mesurer contre les textes internationaux aujourd'hui en vigueur, aujourd'hui, l'offensive peut être considérée comme un crime de guerre. Il faut ajouter aussi la mort de quelques 100 000 aviateurs alliés, un taux de mortalité de l'ordre de 40%, accidents compris. Il y a aussi un bilan actif. Économique d'abord, fin 1944, l'économie allemande était vraiment atteinte en chiffres absolus. Les disponibilités en pétrole avaient chuté de près de 2/3 depuis janvier. Cette contribution est essentiellement américaine. À ceci, il faut ajouter les ressources que doivent consacrer l'Allemagne à la défense anti-aérienne active et passive. Selon Colin Gray, ces efforts occupaient 4,5 millions d'effectifs en 1944, soit le tiers de l'effort de guerre allemand. Pour ce qui est de l'aviation allemande, l'offensive oblige le Reich à consacrer l'essentiel de ses efforts en la matière à la chasse, diminuant ainsi sa capacité à porter des coups en Afrique ou sur le front oriental. C'est ainsi qu'entre mars 1943 et décembre 1944, les effectifs de la chasse allemande augmentent de 75%, de 2000 à 3500, mais les disponibilités en bombardiers diminuent de 2/3, de 1500 à 500, et toujours sans quadrimoteur. Du point de vue stratégique, l'offensive représente aussi le seul deuxième front pour l'Union soviétique entre 1942 et 1944. Et enfin, puisqu'on a beaucoup parlé des batailles décisives, je crois que s'il y a une bataille décisive, c'est sans doute l'opération dite « Argument » menée par les Américains en février 1944, où les bombardiers américains se font accompagner pour la première fois par les chasseurs P-51 Mustang équipés avec de réservoirs de longue durée. C'est en quelque sorte l'offensive tournée sur sa tête, c'est-à-dire les bombardiers représentent l'appât qui oblige la chasse allemande à sortir et à mener une guerre d'attrition contre la chasse américaine qu'elle ne peut pas gagner. Sans l'opération Argument, il n'y aurait pas eu de supériorité alliée au-dessus des champs de bataille normands. C'est donc extrêmement important et pour moi, c'est en quelque sorte la bataille décisive de l'offensive. Donc, on peut certes poser un certain nombre de questions sur l'utilité de l'offensive, surtout pendant les derniers mois, mais il ne faut pas estimer que c'était parfaitement inutile. Alors, j'en viens à ma dernière partie, l'offensive alliée en ce qui concernait la France. Il faut souligner que si les Alliés ont déversé 2,5 millions de bombes sur l'Europe continentale, l'Allemagne n'a pris qu'une grosse moitié de ce total. Et le deuxième pays concerné était justement l'Hexagone. Je sors peut-être un instant pour vous montrer une carte qui donne un peu la mesure de c'est quand même on a parfois tendance à penser que l'offensive alliée au-dessus de la France était limité à la Normandie, par exemple. Et c'est vrai que la Normandie apprend une concentration très importante des attaques. Mais à regarder cette carte, les Auvergnats avaient de la chance. Et encore, il y a Clermont-Ferrand. Même Biarritz a été bombardé. J'ai repéré 200 cibles rien que pour la Royal Air Force, sans compter par exemple des attaques américaines importantes comme par exemple Saint-Étienne, Lyon, etc. C'est tout à fait considérable.
Hein? Ça c'est anglais. C'est...
Non, ça c'est les deux. Ça c'est les deux.
Excusez-moi, je suis très étonné. Moi. J'étais sous les bombes, mais tout en haut à droite. Tout en haut à droite, c'est-à-dire en Alsace-Lorraine.
Oui.
Je peux vous assurer que des bombes sont tombées.
Oui, oui, non. C'est bien marqué. Les principaux bombardements.
Ah bon.
Les plus.
Ce n'était qu'en plus.
Voilà.
Je
n'ai pas la place pour mettre mes deux sensibles. Mais,
je suis rassuré.
Non. Alors, je reviens donc à mon PowerPoint. Oui. Ah, évidemment, on manque pas de... Pardon, excusez-moi. Vous voyez bien que, et ça ne va pas vous étonner, qu'en termes de tonnes, l'essentiel se fait en 1944. De même en termes de morts civiles. Les morts civiles, c'est vraiment au bas mot. Moi, je dirais plutôt 57 000 minimum. Là, ce sont les chiffres relevés par la défense passive à la fin de la guerre. Et la défense passive souligne que ce sont des chiffres incomplets. Bien sûr, l'Hexagone ne manque pas de cibles. Si on prend les ports, d'abord les ports de la Manche, les ports de l'invasion, puis les ports de l'Atlantique avec les bases sous-marines, puis les ports de la Méditerranée, puis les aérodromes, puis les industries travaillant pour l'Allemagne, puis les chemins de fer, les centres ferroviaires, avec le fameux Transportation Plan du printemps 1944, puis les sites des armes V, des sites ruraux qui entraînent relativement peu de morts civiles, puis les nœuds routiers juste avant le jour J, puis les troupes ennemies, puis éventuellement des bombardements, non pas pour atteindre le moral des Français, mais pour le remonter en 1942, pour montrer que les Alliés, et surtout les Britanniques, sont bien dans la guerre, on a une série de cibles tout à fait impressionnantes. Les Alliés sont conscients qu'ils bombardaient des amis, ce qui donne lieu parfois à des efforts de propagande un peu malencontreuses. Voici donc un tract, un tract lancé par les Américains dans qui s'appelle l'Amérique en guerre pour fêter le premier anniversaire de du première attaque américaine en Europe. Et on oublie de dire que cette attaque visait cette ville. Et surtout, les Britanniques sont relativement mal à l'aise par rapport à ça. Regardons Churchill. Au début du fameux Transportation Plan, la plus grande offensive contre des cibles françaises jusque-là, en 1944, qui vise les centres ferroviaires. Et Churchill a de fortes réticences, tout comme Harris d'ailleurs, qui préfère toujours bombarder l'Allemagne. Et Churchill fixe une sorte de limite officieuse de 10 000 morts civils français. Et voici sa correspondance avec Tedder, le second de Eisenhower. En mai 1944, il demande à Tedder, « How does your score stand now? And are you keeping well within the limits you mentioned? » C'est-à-dire en deçà des 10 000. Réponse de Tedder, passablement cynique, tué selon l'axe 6062, solde créditeur 3938. En fait, c'était plutôt dans les 14 000 et 15 000 vies françaises, compris le fameux Transportation Plan. Alors, je voulais aussi vous parler un peu de l'exécution, des techniques de bombardement. Grosso modo, les Américains, estimant faire des bombardements de précision au-dessus de l'Allemagne, ne changent pas de technique au-dessus de la France. Donc, ils bombardent toujours à 7000 mètres. Les Britanniques, eux, qui font des bombardements de zones qui visent à brûler des villes entières, savent que, sauf pour Lorient et Saint-Nazaire, ils ne peuvent pas faire la même chose en France. Donc, ce sont les Britanniques qui essaient, tant bien que mal, à changer de technique, en y mettant beaucoup moins d'incendiaires dans leur mélange de bombes, mais aussi en essayant de viser plus précisément, en se rapprochant bien plus à la cible, à baliser mieux la cible, etc. Ce qui donne lieu à cette impression durable des Français que les Américains bombardaient un peu n'importe comment et les Britanniques bombardaient en gentleman. C'était un peu aléatoire parce que quand les fusées baliseurs étaient mal placées, les Britanniques étaient capables de bombarder aussi mal, sinon pire, que les Allemands. D'ailleurs, quand l'écart moyen par rapport au point visé est de l'ordre de 600 mètres, on a un manque de précision qui exige de la part des bombardiers, comme le disait Harris, d'être généreux avec les bombes, ce qui donne lieu à des attaques ressemblant à s'y méprendre, des attaques de précision qui ressemblent à s'y méprendre à des attaques des bombardements de zone, qui donnent lieu évidemment à une propagande tout à fait, bon, ça se fait presque tout seul de la part de la collaboration. Je trouve quand même que l'affiche de gauche est relativement bien vue. Je vous présente l'état qui a déclenché un peu l'ensemble de mes recherches à ce sujet, à savoir le Havre le 5 septembre 1944. On voit à gauche les fusées baliseurs qui commencent tout juste à descendre et la cible une demi-heure plus tard. Et puis le résultat sur place en janvier 1945. Pour le bilan, on peut, en ce qui concerne les morts, bon, la France et le Royaume-Uni et l'Italie subissent des morts du même ordre, encore que les chiffres sont relativement peu précises. On peut dire qu'il fallait 9 tonnes de bombes pour tuer un Français contre une pour tuer un Britannique. Non, les Français donc, sont forcément plus coriaces que nous. Dans l'ordre, le palmarès morbide des attaques classées par mort civile, on place le Havre en tête, suivi de Marseille. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le nombre de morts n'a qu'un rapport très aléatoire avec les tonnes de bombes lancées. Le bombardement de Marseille est un bombardement relativement petit, mais il se fait que presque tous les Marseillais, pour plusieurs raisons, sont dans la rue et sans protection, ce qui donne 1800 morts dans une matinée. Voilà, je peux... En ce qui concerne l'offensive alliée sur la France, évidemment, les Alliés ne pouvaient pas ne pas le faire du tout. Moi, je peux classer les attaques en trois catégories. Certaines étaient utiles et relativement économiques en vie civile, comme par exemple l'attaque de la fameuse escadrille 617 contre l'usine Nome Rhône à Limoges. D'autre part, il y a des attaques comme par exemple Paris-la-Chapelle ou plus généralement les attaques du Transportation Plan, dont on voit la justification mais qui entraînent de très importants dommages collatéraux, comme on dit maintenant. Enfin, des attaques dont on peut vraiment se demander à quoi elles ont servi. Mais aussi, je vous disais tout à l'heure que le Blitz, c'était en quelque sorte des avions conçus pour des opérations en rapport avec le champ de bataille qui ont été utilisées pour des bombardements stratégiques. Ici, nous avons affaire à l'inverse, c'est-à-dire de gros quadrimoteurs qui ont servi d'autres buts. Bon, je conclue avec trois points. D'une part, l'état-major de l'armée de l'air française a qualifié la guerre que menaient les Britanniques et les Américains en l'air d'une guerre de riches, c'est-à-dire des puissances qui disposaient d'une débauche de moyens, qui disposaient de la capacité d'établir une supériorité aérienne qui était un atout maître qui deviendra extrêmement important. Deuxième point, un paradoxe. Ce sont deux grandes démocraties, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont su, conçu et produit en masse les bombardiers quadrimoteurs, armes terribles qui ne peuvent manquer de tuer des civils par centaines de milliers. A priori, c'est le contraire de ce que devrait dicter leur valeur. Mais c'est un paradoxe plus apparent que réel, car en démocratie, et surtout après 1918, une saignée comme celle de la Première Guerre, par laquelle la quasi-totalité des commandants de 39-45 étaient passés, n'est plus acceptable. Les bombardements offrent apparemment un moyen de l'éviter. Que ce soit justement les démocraties qui s'arrangent pour faire porter la guerre loin de leur territoire par des bombardiers et qui ne veulent pas lancer des troupes terrestres au combat sans une solide préparation, est finalement assez logique. Je termine enfin sur le sulfureux Harris, l'homme de Dresde, mais qui, en ce qui concerne la France, est beaucoup moins agressif. Il a même lancé, en octobre 1944, une quête dans les équipages, la RAF, destinée aux orphelins français dont les parents avaient été fusillés pour avoir apporté l'aide aux pilotes abattus, aux pilotes alliés abattus. Et voici donc l'hommage de Harris à la population française. Je le trouve assez éloquent, même si vous pouvez estimer que Harris, en quelque sorte, c'était de l'arme de crocodile. Je vous remercie. Et merci de m'avoir permis à dépasser un peu.
Non, merci à vous. Vous avez fait revivre une partie de mon enfance. Alors. C'était centre ferroviaire et c'était les Américains. Donc la gare est toujours là. Elle n'a pas été touchée du tout. C'est revenu plusieurs fois, de 7000 mètres. Mais enfin, ça a été assez méchant dans les environs. Peu importe. Merci. Moi, je propose de passer directement aux deux autres exposés successivement et ensuite on ouvrira la discussion. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé.
C'est
votre
moi.
Français, j'aimerais parler français aussi bien que vous. Enfin.
Bien, monsieur, Merci beaucoup de cette invitation et je suis très honoré et très fier de pouvoir parler devant vous. Surtout que, en fait, je ne suis pas du tout un historien, comme vous l'êtes tous après vous avoir entendu. Je suis, à la rigueur, un opérationnel, quoi. Donc, j'ai quitté il y a quelques mois le service actif. Et donc, c'est pour ça que je vais m'attacher plus à vous parler de faits assez récents pour ce sujet qui est traité sur la bataille, la campagne aérienne. Alors, bataille aérienne, on n'a pas entendu donc Monsieur Facon, qui est un grand historien et qui aurait parlé de ça, donc je vais dire trois mots. Bataille aérienne veut dire donc combat aérien, pour qu'il y ait bataille aérienne. Je fais cet commentaire par rapport aux actions aériennes d'aujourd'hui, où en face il n'y a personne, que ce soit en Irak, que ce soit... Donc quand je parle de bataille aérienne, je parle bien d'avions ou combat aérien, pour cette grande... recherche stratégique initiale qui est la supériorité aérienne et si possible la suprématie aérienne. La supériorité aérienne va m'offrir le ciel pour pouvoir faire ce que je veux dans une période de temps limitée. La suprématie, je ferai ce que je veux quand je veux. Et c'est bien ce que l'on voit aujourd'hui, que ce soit pour la coalition en Irak, en Syrie, au Mali pour nous ou ailleurs, on a bien la suprématie aérienne. Donc ces batailles aériennes, je ne vais pas, puisque encore une fois, ce n'est pas tout à fait mon domaine en tant qu'historien, mais rappelons-nous quand même que nous sommes là pour parler en gros de 100 ans d'histoire, alors que nous avons parlé avec vous de milliers, voire de dizaines de milliers d'années. Hein. Donc je rappelle, le premier combat, c'est le 5 octobre, donc 1914. C'est donc ce Farman III contre cet aviatique, et ça se passe à la mitrailleuse et à la carabine, quoi, hein. Et puis petit à petit et très vite, on va s'apercevoir de cet intérêt et très vite, on va avoir ces bombardiers, ces avions de reconnaissance d'abord, puis ces bombardiers et puis ces chasseurs. Parce que très vite, on va se rendre compte que avoir la maîtrise du ciel sera primordial. Et ce sont les fameuses batailles Verdun, Somme, la Marne, où on va dans un premier temps accompagner l'action terrestre par des unités aériennes et très vite regrouper et former une aviation de chasse pour avoir cette supériorité. Très vite, je passe entre les guets, hein, bataille de France, bataille d'Angleterre, on en a un peu parlé, c'est bien à chaque fois l'attrition de l'aviation ennemie pour pouvoir avoir cette supériorité aérienne qui se fera par le nombre. Si j'ai plus d'avions et si j'attritionne l'ennemi, à force, le ciel sera à moi. Pearl Harbor, Midway, on en a parlé, ça va jusqu'à la guerre de Corée. En bas, vous voyez ce MiG-15 face au SAB, notamment américains, où nous avons des vrais combats aériens entre les premiers avions en réaction. Le premier combat d'avions en réaction, c'est bien pendant la guerre de Corée. Et puis, bien sûr, la guerre du Vietnam, où on a vu apparaître ces MiG-17, ces Fencer, contre le Fantôme, ces fameux combats aériens, ces derniers combats aériens. Alors, pas tout à fait derniers, parce que la dernière victoire aérienne, en fait, c'est pendant la guerre du Kosovo, où les Serbes vont faire décoller 2 MiG-29. Durée de vie du CERN devant la coalition, des minutes. Évidemment, on imagine le pouvoir de la coalition, l'avance technologique, les AWACS, les avions, les F-16, les missiles. Le pauvre avion CERN, même si c'est un MiG-29, il a fait 10 minutes. Et très vite, le CERN, comme plus tard l'Irakien, va se rendre compte que c'est absolument pas la peine de décoller face à une avancée technologique aussi importante. Après, toujours dans ces rappels un peu historiques, je voudrais rappeler deux faits qui me semblent importants. Le premier, c'est en comparant ce que l'on vient d'entendre avec ces bombardements Dresde, Tokyo, avec les deux bombes atomiques. On est bien, comme vous le voyez, en nombre de victimes, un peu de sauce près du même ordre, hein. Dresde, alors quand on recherche un peu les chiffres, on va de 60 à 300 000, on est plutôt vers les 250 000. Tokyo, les différents raids américains, en une nuit du 9 au 10 mars, il y a 100 000 victimes. C'est un des trois raids réalisés, trois gros raids organisés par les Américains. Et de l'autre côté, on a un avion, une bombe, et on a 250 000 victimes ou 150 000 victimes. On passe là à une autre dimension du combat, du bombardement. C'est du bombardement stratégique parce que l'objectif devient politique. Alors, l'objectif de Dresde, quand on lit un peu, hein, le premier objectif, c'est qu'on dit que c'est un appel du russe qui dit « il se passe plein de choses sur le nerf ferroviaire et donc c'est l'Allemagne qui est en train de préparer un gros coup ». On sait qu'aussi, une des autres possibilités, c'est jouer sur le moral des Allemands, bien sûr. Mais là, on tombe donc dans un nouveau registre du militaire et du politique, du conventionnel et du nucléaire. Et pour nous, Français, il y a un autre élément, un autre fait historique qui va nous conforter dans cette affaire, c'est l'affaire de Suez. Vous savez, l'affaire de Suez, hein, le contingent franco-britannique qui débarque, et à côté l'israélien qui va donc intervenir, une vraie victoire tactique, débarquement, parachutage, utilisation de l'aviation, dans tous les moyens et toutes les facettes des capacités militaires. Mais le gros événement qui suit, c'est l'ultimatum du maréchal Bulganine au 5 octobre, qui va adresser aux deux pays, français et britannique, une lettre. Et là, quand on lit la lettre adressée aux Français, j'estime qu'il est de mon devoir de m'adresser à vous, dans quelle situation se trouvait la France? Il était l'objet d'une agression de la part d'autres États disposant des terribles moyens de destruction moderne. Je considère de mon devoir de faire savoir que le gouvernement soviétique est pleinement résolu à recourir à la force et donc au nucléaire. Et à côté de ça, aux Britanniques, le même jour, la même lettre, une lettre différente, la guerre contre l'Égypte peut s'étendre à d'autres pays et dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Nous espérons que vous en tirerez toutes les conclusions nécessaires. Pourquoi une telle différence? Parce que le Britannique possède l'armement nucléaire et que le Français ne l'a pas. Ce qui va faire dire à Guy Mollet, plus jamais ça. Et certes, les travaux nucléaires français ont débuté. Rappelez-vous la lettre de Einstein en 1939, au président des États-Unis qui dit « Attention, les Français, comme les Allemands, sont en train de prendre de l'avance par rapport à nous avec les travaux Curie, la famille Curie, 1939. » Là, on est déjà en 56, le programme est déjà un peu lancé, mais là, le général de Gaulle va ensuite prendre la suite de tous ces travaux. On y a déjà commencé, mais là, le général va bien sûr mettre une ampleur supplémentaire. Et ça fait que donc, nous allons construire cet armement nucléaire avec cette première composante qui, le 1er octobre 64, va prendre l'alerte nucléaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle de bombardement stratégique, à partir de ce moment-là, la France, nous allons faire l'amalgame entre bombardement stratégique et bombardement nucléaire. Si je parle de stratégique maintenant, aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle les forces aériennes stratégiques, les FAS, c'est parce qu'ils disposent de l'armement nucléaire. Le seul bombardier qui a commencé à vivre un peu après la Seconde Guerre mondiale a été le Vautour. Le Vautour qui donnait une petite capacité de bombardement, mais qu'on a très vite abandonné et on est resté dans ce bombardier stratégique. C'était un peu le Vulcan britannique qui avait aussi cette même mission lorsque les Britanniques avaient encore cette composante aéroportée. Voilà, donc 1964, création du bombardement stratégique qui veut dire donc nucléaire pour nous. En gros, vous savez que c'est pour faire face notamment au SA-2, le premier missile solaire russe qui va défendre le territoire soviétique, plutôt soviétique. Et c'est pour ça que comme capacité, on va lui demander Mach 2 et très haute altitude. Car, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'époque où le U-2 américain se fait abattre avec un SA-2. Mais le U-2 évoluant à 0,7 de Mach, même s'il est aussi à 70 000 pieds, c'est-à-dire très haut. Mais il est subsonique. Et donc, on va commencer à rentrer dans cette famille d'avions supersoniques, car on considère déjà à l'époque que la vitesse, c'est ce qui va vous permettre d'éviter les missiles solaires. Je reviendrai un peu après, si vous le voulez. Et donc, et là, je reviens un peu maintenant à notre époque un peu plus moderne, ce qui va modifier, bien sûr, la stratégie militaire, et notamment, dans cette armée de l'air, ce sont bien les capacités que l'on va se doter, essentiellement technologiques, avec ces nouvelles briques qui vont permettre d'aller plus vite, plus loin, de voir ce qu'il se passe avec ces moyens de reconnaissance et évidemment avec les moyens d'action. Et avec les forces aériennes stratégiques, va se développer pour nous Français le Boeing ravitailleur qu'on va aller acheter en 1963 aux États-Unis pour développer cette composante nucléaire et donner au Mirage 4 cette aptitude à aller loin. Et c'est là où on dit, dans l'armée de l'air, que la composante nucléaire a tiré notre armée de l'air vers le haut. C'est à travers cette mission de stratégie qu'on va développer la centrale à inertie, la guerre électronique, le supersonique et le ravitaillement en vol. Le premier avion chasseur-bombardier qui va ravitailler en vol pour donner un peu d'allonge, chez nous, c'est le Jaguar, qui va en Afrique devenir le camion à bombes en Afrique. Et cette allonge-là, elle va être possible grâce au Boeing ravitailleur que nous avons acheté en 1963. Pour parler un peu de stratégie, on l'a vu un peu pendant cette Seconde Guerre mondiale, hein, une stratégie qui se veut beaucoup, entre le guillemets, tactique, voire opérative, où on a des objectifs qui s'inscrivent dans une campagne. On a parlé de Douai, créateur un peu de cette stratégie aérienne. On parle aujourd'hui encore un peu de Worden. Vous savez, Worden, c'est celui qui va traduire un pays, une nation, une coalition, en fonction de ses centres de pouvoir. Et il a 5 centres de pouvoir, et en fonction de l'effet que l'on veut, l'effet stratégique que l'on veut avoir sur le pays, on va taper sur les forces militaires, on va taper sur le système économique, sur sa production d'énergie, et le petit cercle du milieu, c'est les centres de pouvoir, politique, famille, et Saddam Hussein, ou Milosevic, on est allé jusqu'à taper dans le premier cercle, au milieu. C'est-à-dire que Milosevic a baissé et a signé quand on a commencé à taper sur sa famille. Saddam Hussein, on a tapé, vous rappelez sans doute, hein, tous ses palais, et on a commencé à taper sur sa famille. Là, on tape dans les fameux cercles de Worden, dans cette histoire de stratégie. Aujourd'hui, on peut parler d'évolution de stratégie, on est beaucoup dans l'air-land integration, c'est-à-dire l'action aérienne en complémentarité forte de l'action terrestre. Néanmoins, il y a deux grandes opérations où l'armée de l'air, où l'action aérienne seule a amené le résultat. Et quand on dit que pour gagner une guerre, il faut des troupes au sol, les fameuses boots on the ground, il y a deux exemples où l'armée de l'air a suffi, c'est Milosevic et la Libye. Milosevic, à lieu de force, l'OTAN, jusqu'à 1000 sorties par jour. Et à force de taper dans ces fameux cercles jusqu'au plus proche de lui, on est arrivé à le faire signer alors que les troupes étaient encore au Macédoine en l'air. La Libye, et je vais en parler puisque ça sera mon cas un peu concret pour vous expliquer cette campagne qui va se dérouler par des phases. Toutes ces capacités que l'on met aujourd'hui en œuvre pour cette campagne aérienne, puisqu'en gros, on ne parle plus, vous l'avez compris, de bataille aérienne parce que, eh bien, il n'y a plus d'ennemis en face, d'ennemis aériens. Et au milieu, je vous mets quelque chose qui aujourd'hui devient incontournable, ce sont les centres de commandement et de contrôle, ce qu'on appelle le C2, qui va regrouper tout, et à partir de moyens de transmission, de moyens d'information, on va diriger la campagne aérienne à partir d'un centre d'opération. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, nos Rafales ou nos Mirage 2000 qui décollent en Afrique, pour le Mali, les ordres sont faits à Lyon-Montverdun, dans le souterrain. L'ordre de campagne, ce qu'on appelle l'Air Task Order, le message que reçoivent tous les équipages, qu'ils soient de Boeing, qu'ils soient de tankers, d'AWACS ou de chasseurs-bombardiers, ils reçoivent un ordre qui est écrit à Lyon. C'est dire que la chaîne de commandement aujourd'hui est centralisée parce que la technique le permet. Bien sûr, la transmission, les systèmes de transmission, le cryptage de l'information. On mettra quand même auprès du chef terrien qui est déployé un aviateur pour assurer cette coordination. C'est ce fameux, encore une fois, stratégie de l'air-land integration. Et puis, quand je dis ces capacités qui vont changer, c'est, en gros, ces nouveaux avions de chasse. Je parle évidemment du Rafale, parce que, évidemment, j'ai eu du Rafale sous mon commandement, mais parce que, et je vais vous dire que le Rafale, aujourd'hui, emporte l'armement de 3 avions que l'on avait il y a encore 15 ans. Vous mettiez 2 Mirage 2000D qui emportaient des bombes et un Mirage 2000D C pour la chasse qui emportait des missiles pour la défense aérienne, eh bien, sur le Rafale, vous avez 6 bombes et 6 missiles. Sauf que, évidemment, les prix ne sont plus les mêmes, les coûts budgétaires, Et donc, vous diminuez la cible. Et donc, vous êtes confronté à comment est-ce que je tiens ma période, comment est-ce que je tiens ma durée, si je veux, par exemple, avoir un cap, c'est-à-dire un circuit d'attente H24. Si je veux mettre du Rafale sur un cap H24, eh bien, il m'en faut en gros 4, 5, 6, 6 avions. Pour tenir un cap, 6 avions. Donc, si je veux être H24 présent sur le théâtre, il me faut 6 avions. Alors, quand on sait que les petits détachements qu'on déploie aujourd'hui, les Rafales en Jordanie, les Mirage 2000 en Jordanie sont 6, les Rafales qui sont aux Émirats Arabes Unis sont 8, donc on ne pourra jamais tenir du H24 sur un circuit d'attente.
D'où
c'est H24, c'est 24 heures sur 24.
Ah oui.
24 heures sur 24. Et donc, d'où le drone. Et là, j'en en parlerai pas trop parce que je sais que tu en parleras derrière moi, mais d'où la résilience du drone. Le drone qui reste 12 heures, 24 heures en fonction de la taille du drone et de son autonomie. Bref, avec toutes ces nouvelles capacités-là, nous construisons donc des campagnes aériennes avec des objectifs, bien sûr, politiques. Je ne parle pas beaucoup de notre processus de gestion de crise, mais j'en dirai deux mots pendant la Libye, mais vous savez que le président rassemble son conseil de défense et prend des orientations dans la conduite de la campagne. Je vais en parler dans 3 minutes. Il y a un phénomène aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que avec la technique, le moderne, les réservoirs que vous mettez et votre Boeing ravitailleur qui vous accompagne, ou votre avion ravitailleur qui vous accompagne, le rayon d'action de nos avions de chasse grandissent. Là, par exemple, vous avez en bleu le rayon d'action d'un Rafale derrière son Boeing s'il revient sur sa base initiale. Donc, ça vous donne un rayon d'action. Donc, vous voyez, et là, on retrouve les missions qu'on a faites au Mali, Somalie, non, pas Somalie, Mali, le Tchad, et on va, vous le voyez, un peu jusque Moyen-Orient. Mais avec le rayon rouge, alors évidemment, avec la rondeur de la Terre, on a une ligne un peu biscornue, mais on a une aptitude à aller loin si, par exemple, on se pose chez nous. Par exemple, la Réunion, c'est chez nous. Et en 2014, j'ai demandé à mes gens de faire un raid de Rafale, 5 ravitailleurs en vol, 11 heures de vol, ils sont allés à la Réunion sans escale. Alors, quand on sait que c'est un avion stratégique qui peut emporter, entre guillemets, le missile nucléaire, et qu'il a une autonomie sur zone en arrivant à la Réunion de 1 heure, donc si l'on prend la distance et si on la bouge, on est capable d'identifier quelle est l'aptitude de ce Rafale derrière son Boeing ravitailleur. Ça, c'est quelque chose d'important, enfin d'intéressant, quand on discute, par exemple, avec le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, et quand on parle de rayon d'efficacité, enfin de distance maximale franchissable, on n'en est finalement pas loin. Alors, je ne suis pas là pour parler de la dissuasion nucléaire, mais il y a plein d'arguments, d'éléments qui jouent sur cette complémentarité. Moi, avion, Rafale, je fais ça. Toi, sous-marin nucléaire, avec ton missile M51, tu fais ça. Et comme par hasard, c'est très complémentaire dans notre, aujourd'hui, doctrine de dissuasion. Un autre exemple d'exercice qui se fait régulièrement, vous mettez un Boeing ravitailleur, vous mettez deux Mirage 2000 derrière, et vous faites cette mission. Et on s'entraîne régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'à Djibouti, nous avons aussi 8 chasseurs déployés, et ça vous fait des chasseurs ennemis. Et donc, l'équipage qui fait cette mission, il fait 7 heures de vol, et quand il arrive, il est confronté à de la chasse ennemie, et ensuite, il a son objectif sol à détruire. Donc, un réalisme, entre guillemets, où le pilote est vraiment dans le coup. Alors, je vais vous donner un peu comme exemple de campagne aérienne ce que nous avons fait en Libye. Ce qui est intéressant en Libye, c'est que nous avons en fait 3 campagnes aériennes. La première, elle va s'appeler l'opération Harmattan. C'est une campagne, je vais vous aller voir, qui est uniquement française. Je reçois des ordres du président et moi, avion, pilote, mais équipage, je vais réaliser des missions. Ensuite, la coalition va se créer derrière les Américains, 14 pays coalisés dont nous serons, et nous allons participer à l'opération Odyssey Down. Je vous montrerai quelques résultats. Et ensuite, l'OTAN va prendre la plus grande partie de cette opération. C'est ce qu'on appellera l'opération UNIFED Protector. La première phase de la campagne, quelle que soit la campagne aérienne, c'est recueillir du renseignement. Il faut que je sache quel est l'ordre de bataille, l'ODB, l'ordre de bataille ennemi. Et là, pour savoir ce que Kadhafi fait, pendant 14 jours, je vais mettre en œuvre mes moyens de renseignement. Du satellite, bien sûr, et je vais recueillir des photos satellites, des images, l'activité des bases aériennes, l'activité du système solaire. Je vais mettre mon AWACS, qui va détecter toute l'activité aérienne dans un rayon en gros de 350 km. Et je vais mettre en œuvre, toujours dans la zone de Malte, donc je suis dans l'espace aérien maltais, donc international, et là je vais écouter ce qui se passe, à la fois radar, à la fois radio, et je vais être capable, en gros, de savoir à 60% quel est l'ordre de bataille libyen, et notamment tout ce qui se passe sur la zone. Ça c'est important parce que quand je vais envoyer mes avions faire de la défense aérienne ou tirer des bombes sur des objectifs, il faut que je sache ce qu'il y a en face. Est-ce que je dois les détruire, les radars ennemis, le distance de les défenses solaires ennemies. La deuxième phase, qui ne va pas durer longtemps, hein, du 19 au 21 mars, c'est le président Sarkozy en Conseil de défense qui dit « Je veux que les avions français soient les premiers à intervenir en Libye. » Et dès que la résolution de l'ONU sera signée, je veux que des avions français frappent. Et donc derrière, planification, conduite, et vous savez que ça se passe du côté de Benghazi, puisque Kadhafi a annoncé « Mes chars sont à la frontière, sont à la périphérie de la ville et je vais faire un bain de sang pour réduire cette rébellion. » Là, réaction de la communauté internationale, il faut éviter le bain de sang. Et donc, une opération est menée pour, sur cette route qui mène à Benghazi, stopper les chars de Kadhafi qui vont monter. Et donc, je vais remettre tout mon dispositif aérien, des tankers, mon AWACS, ma guerre électronique, et je vais mettre 4 avions dans cette box et je vais faire une no-fly zone. C'est-à-dire que tout ce qui volera dans cette zone est considéré comme ennemi et donc sera détruit. Et pendant que je couvre l'espace aérien, en dessous, j'ai des mirages de milliers, des rafales qui vont tirer les chars de Kadhafi qui sont en train de monter sur Benghazi. Et le lendemain, voilà, cette mission-là, c'est le 19 mars, cette capacité d'entrer en premier. Ça décolle de Saint-Dizier, de Nancy, de Dijon, ça traverse, 2h30 de vol, ça ravitaille, c'est couvert par un AWACS et par la guerre électronique. L'avion à droite que vous voyez, c'est un Transal Gabriel qui a toutes les antennes pour écouter électronique, c'est notre avion de guerre électronique. Et ces avions-là vont faire la mission de no-fly zone et tirer les bombes. Pour ça, il faut avoir cette aptitude, comme vous le voyez dans les deux patatoïdes marron, une appréciation autonome de situation. Je n'ai pas besoin de renseignements américains, je suis capable de dire ce qu'il y a. Et j'ai besoin de cette capacité autonome de conduire et de planifier une opération. Et ça, aujourd'hui, nous avons ces capacités-là. Et la mission du Rafale du 20 qui va aller photographier les résultats montre qu'effectivement, sur cette route qui mène à Benghazi, eh bien, les chars, il y a eu un certain de dégâts sur les chars. Ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que voir que le lendemain, la route en question, elle est complètement, vous voyez, avec tous ces véhicules civils qui traversent et qui ne sont pas gênés pratiquement au milieu des cibles qui ont été tirées la veille. On passe ensuite à la troisième phase, c'est celle du 22 au 31 mars. Et là, pour organiser la suite de cette frappe au-dessus, les Français et les Britanniques vont se mettre d'accord et vont dire « on va prendre le lead de cette opération, on va créer un centre d'opération ». Et puis, à force de discussion, on va se rendre compte qu'on n'est pas si bon que ça, on n'a pas toutes les capacités. L'Américain, naturellement, va prendre le leader de cette coalition pendant une dizaine de jours. Et à partir de son centre d'opération qui est à Ramstein, en Allemagne, base américaine en Allemagne, il va mener les cibles, il va faire cette étude de cible et il va mener ses frappes aériennes. Et petit à petit, vous voyez, les forces de Kadhafi vont quitter Benghazi et petit à petit, à force d'attrition, vont se retrouver, eh bien, en gros, au large de Tripoli. À côté de ça, cette aptitude à aller envoyer des avions de reconnaissance à l'intérieur pour savoir ce qui se passe. Le 23 mars, pour nous, ça va être une journée intéressante. C'est la première fois que nous allons tirer du missile de croisière. C'est du Scalp. On va tirer sur une base aérienne d'Al-Joufra, qui est au sud, vous voyez. Et là, on va tirer avec des Mirage 2000, avec des Rafales qui vont décoller de Saint-Dizier. On va tirer des Scalp, c'est notre missile de croisière. Ce qui est intéressant dans cet armement-là, c'est qu'on le tire à 400 km de l'objectif. On n'est même pas passé sur la Terre. on a largué les scalps, on était encore au-dessus de l'eau. Et comme d'habitude, comme toute frappe aérienne, ce qui est important, c'est d'être capable de savoir quel est le résultat. Ça, c'est l'image d'Al-Jufra, photo satellite, où on a défini quels étaient les objectifs. On visera le bunker, c'est la priorité numéro 1, vous voyez en haut à gauche. On tapera sur les deux hangars et le PC de commandement, l'objectif numéro 3. Et le numéro 2, c'est le stock de pièces détachées, de munitions et où se réparent les avions. Et on fera passer le satellite après la frappe et on verra que ces frappes sont chirurgicales. Et vous voyez les traces où le scalp a pénétré dans le toit et a explosé à l'intérieur. C'est vraiment ce qu'on appelle de la frappe chirurgicale. Pour la petite information, c'est qu'une fois le conflit terminé, on a envoyé bien sûr des ingénieurs et des gens voir quel est l'effet réalisé, les dégâts réalisés à l'intérieur du hangar. C'est comme ça, bien sûr, qu'on tire le retour d'expérience de ces affaires. Et enfin, la dernière phase qui sera la plus longue, du 1er avril au 20 octobre, où l'OTAN prend en compte la mission, utilise tout son système de commandement intégré qui est déjà en place et va mener donc toutes ces frappes et tout jusqu'à la mission finale du 20 octobre où, vous savez, c'est la mission où deux Mirage 2000D vont arrêter le convoi de Kadhafi et sa voiture et où il sera tué par ces gens au pied du pont que l'on devine. Voilà. Je voulais un mot sur cette gestion de crise. C'est une affaire qui est longue. Le président Sarkozy va dire c'est trop long. C'est trop long. Il va réunir son conseil de défense, les ministres intérieur, défense et affaires étrangères, et le chef d'état-major des armées. Et là, il dit, OK, je veux que l'opération soit terminée le 14 juillet. Qu'est-ce que vous me proposez? Et là, le chef d'état-major des armées va se tourner vers ces trois armées, va dire, quels sont les modes d'action que l'on pourrait mettre en œuvre pour accélérer? L'armée de terre va dire, je vais employer des hélicoptères de nuit. Et c'est là où on va embarquer des hélicoptères sur nos bateaux et où les hélicoptères de nuit de la LAT vont aller faire des missions d'attrition de nuit sur les chars et tout ce qui bouge du côté irakien. Le marin va dire, je vais rapprocher mes frégates et je vais tirer au canon à partir de mes frégates. C'est la première fois qu'on faisait ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la marine a rapproché ses bateaux avec tous ses moyens d'écoute et a frappé à partir donc de ses bateaux. Et l'armée de l'air va dire, je vais augmenter les moyens, les chasseurs-bombardiers et tout, et je vais essayer d'attritionner un peu plus. Cette volonté du président de terminer le 14 juillet, vous l'avez compris, elle s'est terminée le 20 octobre. Donc, l'impulsion politique est force, mais à un moment ou un autre, les capacités militaires sont là pour dire on fait ce qu'on peut et pas si facile. Je passe sous silence toutes les difficultés de l'idée de la coalition. Parce que là, la première partie, dans cette coalition l'idée par les Américains, il y a 14 pays, certes, du Belge, du Danois, du Norvégien, très otanien, mais du Qatari, de l'Émirati, dans le plus délicat à intégrer dans la coalition. Ça peut faire l'objet, à mon avis, de toute une conférence sur la difficulté de l'idée d'une coalition, on en avait déjà parlé. Quelques commentaires sur le retour d'expérience. Voilà la difficulté, par exemple, de ce théâtre. C'est-à-dire, vous êtes avec votre avion, votre équipage, vous avez comme objectif d'attritionner le potentiel ennemi. Il faut être capable, avec votre pote de reconnaissance, vous êtes à entre 8 et 10 km d'altitude, il faut être capable de détecter cet avion, ce char qui est là, caché au coin du bois. La deuxième difficulté, c'est de s'apercevoir, enfin de se rendre compte que c'est bien un ennemi. Mais le gros avantage dans cette opération, c'est que comme il n'y avait pas de troupes au sol, la seule difficulté consistait à ne pas tirer sur les insurgés puisqu'on était de leur côté. Mais vous savez que dans les règles d'engagement, ça c'est un commentaire qu'on peut faire, la règle d'engagement initiale, c'était en fonction de la position du canon du char. S'il est dirigé vers l'est, il est considéré comme appartenant à Kadhafi, l'équipage a le droit de le tirer. Si le canon est dirigé vers l'ouest, c'est qu'il est de l'autre partie et on ne le tirera pas. Ce qui a fait bouger des unités de Kadhafi avec le canon de l'autre côté. Enfin bref, règle d'engagement, là aussi, valent tout un espace de discussion, les grandes difficultés. Mais si on veut que les pays de la coalition agissent de la même façon, c'est bien la définition des règles d'engagement qui seront communes et qui feront que chacun agira de la même façon. Une deuxième conclusion de cette affaire, un retour d'expérience, c'est comment détruire ce char dans une ville. Là, elle est dans une ville, vous voyez, donc dégâts collatéraux. En fonction de la munition que vous utilisez, vous tracez un cercle de l'ordre de 200 mètres ou de 400 mètres pour éviter les dégâts collatéraux. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'armement capable de détruire ce char. Il n'y a que la Brimstone britannique, qui est une petite bombe, petite charge, et qui a un cercle d'une dizaine de mètres de dégâts collatéraux. Mais ça veut dire que le guidage final, qui est infrarouge, thermique ou GPS, vous permettra d'aller effectivement sur l'objectif et pas à côté. Pour vous dire, quand on a voulu, nous, essayer de trouver cet armement à faible dégâts collatéraux, on va sortir des bombes en béton que l'on a en exercice. Et la bombe en béton, l'avantage, c'est comme elle n'a pas l'explosif, elle va taper dessus et elle cassera tout, ou elle tape à côté, elle ne fait rien. Notre difficulté, on a retiré ce mode d'emploi parce que nous avions 40% d'impact sur le nombre de bombes tirées. Cette bombe en béton, si elle tombe un mètre à côté, elle ne fait rien. Donc à 40% d'efficacité, on a considéré que ce n'était pas satisfaisant. Bref, ça c'est aujourd'hui une grande difficulté, et c'est pour ça que ce soit Daesh, que ce soit Boko Haram, ils se cachent évidemment dans les villes pour éviter ces frappes aériennes. Les quelques capacités clés qui vous fait jouer entre guillemets dans la cour des grands et qui vous donnent cette aptitude à entrer en premier et cette autonomie de décision. Le plus important, vous le savez, c'est bien le renseignement. Il me faut de le renseignement. Rappelez-vous, pendant la guerre des Malouines, l'Argentin qui fait décoller son Boeing 707 présidentiel, qui met des gens au hublot et qui essaye désespérément de trouver le HMS britannique, il y va avec son 707. C'est pour dire que l'information de où est le porte-avions, le porte-aéronef britannique, est primordiale pour lui. Il ne le trouvera pas. Ensuite, bien sûr, vous l'avez compris, ce C2 commandement et contrôle avec des transmissions associées, c'est ce qui va vous permettre évidemment de commander, gérer et de savoir ce qui se passe. Vous l'avez compris, hein, on l'a bien expliqué dans tout ce qui a été dit auparavant, savoir ce qui se passe sur le théâtre pour pouvoir donner les ordres appropriés. La WACS, le ravitaillement en vol, je n'insiste pas là-dessus, c'est ce qui vous permet vraiment d'aller loin, de voir et de pouvoir protéger vos équipages. Le missile de croisière, c'est ce qu'on appelle cet armement stand-off. Vous le tirez de loin, vous épargnez un peu vos équipages, et en fonction de la précision de votre armement, vous les tirez de loin ou pas. Vous savez qu'on a une bombe, nous, Français, faite par MBDA, qui est l'A2SM, que personne n'a, qui est une bombe qui se tire à 40 km de l'objectif. Et même les Américains nous regardent en disant, là, vous avez quelque chose de bien. On y met un propulseur, vous insérez les coordonnées en GPS, elle est infrarouge et bientôt elle sera recalage par image. Vous lui donnez l'image de l'objectif et il ira reconnaître l'image. Et c'est une bombe qui est propulsée.
Et qui arrive au but. Et on en a combien ?
On en a tiré pour la première fois en Libye. On en a éclusé tout le stock. Et dans cette loi de programmation militaire qui est signée, on a demandé à recompléter le stock. Mais la grande chose, enfin le grand événement qui nous aide beaucoup, c'est que par exemple les Égyptiens ont acheté de la 2SM. Donc MBDA relance la chaîne et donc on va pouvoir acheter tout. Les Indiens ont acheté aussi tout l'armement associé, bien sûr, qui vont bien, et la 2SM. Enfin, la récupération, ce qu'on appelle la CISAR, la Combat Search and Rescue, ça pour le coup, c'est une capacité qui tranquillise vos gens. Quand ils vont s'éjecter en zone ennemie, et sachant qu'il y a quelqu'un, une capacité là, qui est pour aller les chercher dans la mesure du possible, hein, c'est quelque chose qui est à la fois sécurisant et puis qui évite l'attrition. Rappelez-vous, je reviens un peu sur la Libye, les Américains vont perdre un F-15E, donc un F-15, un avion très costaud, bombardement et tout, mais par un problème technique, l'équipage va s'éjecter. 15 minutes après, j'étais dans le centre d'opération, dont je peux vous dire, on arrête toute activité, et qu'est-ce qu'on fait pour aller les chercher? Où est-ce qu'ils sont? Qui a des moyens disponibles et tout? Et là, il y a deux nations qui ont des hélicoptères pour aller les chercher, les Américains et les Français. Et donc, on a monté une opération. Comment les chercher? Il s'avère que l'équipage, le navigateur est recueilli par les insurgés. Donc, tout de suite, il est mis à l'hôtel et on y fera attention. On aura un peu plus d'inquiétude sur le pilote qui, finalement, sera récupéré, pas blessé, donc impeccable. La mission du lendemain, ça a été de détruire le F-15 qui était parti en vrille et qui s'était posé, pratiquement sans peu de dommages, sur le sol. Et pour éviter qu'il soit récupéré, la première mission, bien sûr, ça a été de le détruire. Bref, la récupération, la CISAR, est quelque chose d'important. Voilà, en conclusion, quelques commentaires. Pour revenir un peu dans notre propos, quelle sera la prochaine bataille aérienne? C'est-à-dire, quand est-ce qu'un avion sera face à un autre avion? Voilà une bonne question. Et voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, comme par hasard, on voit l'avion de défense aérienne fleurir. L'Égyptien, évidemment l'Indien, mais l'effort russe dans tous ces Sukhoi de défense aérienne montre bien que cette première partie de la stratégie qui consiste à avoir une supériorité aérienne à défaut d'avoir la suprématie est primordiale. Mais ça explique aussi que le pauvre va se doter de missiles solaires. Et avec un missile solaire qui n'est pas très cher, vous empêchez bien sûr tous ces avions de venir. Et donc c'est le fameux bouclier, la cuirasse et puis le glaive, on en est exactement de cette même stratégie. Sachant qu'aujourd'hui l'Ukraine, ce qui fait peur aux Occidentaux, c'est bien le système solaire russe qui se développe avec son S-300 et bientôt son S-400, qui est une bête qui tient bien la route, quoi, hein. Donc si un jour il va falloir y aller, on utilisera peut-être le scalp où on tirera 400 km. Parce qu'à 400 km, on est effectivement en dehors de ces cercles, de ces fameux rings, comme on dit. Il y a vraiment une dimension qui se prend, bien sûr, aujourd'hui dans toutes ces grandes nations, c'est la défense aérienne élargie, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi sur l'espace. Aujourd'hui, dans tous ces conflits-là, on dispose de tous les satellites, que ce soit pour le guidage GPS, que ce soit pour les transmissions, et que ce soit pour le guidage des drones. Le drone, aujourd'hui, qui est partout, Afghanistan et tout, il est piloté, Yémen, hein, et autres, il est piloté par une liaison satellite. Si face à demain, une autre grande puissance, la première bataille commence à être la bataille de l'espace où on perd nos satellites, là, la question se posera vraiment sur notre résilience. D'où, par exemple, pour la dissuasion nucléaire, tous les exercices se font sans GPS. Que ce soit le B-52 américain ou notre Rafale nucléaire, les exercices se font GPS. Parce que quid du moment où on aura peut-être à agir. Voilà, donc l'espace, vous le savez, hein, on en parle, on lit beaucoup d'articles et tout sur l'avenir, la guerre de demain dans l'espace, avec ces règles internationales où on n'a pas le droit de déployer des armes. Vous savez qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des satellites butineurs. C'est-à-dire que vous avez un petit satellite qui est à côté du vôtre. Vous ne savez pas très bien ce qu'il a. Est-ce qu'il a de l'explosif? Est-ce qu'il a un? Mais comme par hasard, à côté de votre satellite, vous en avez un petit à côté. D'où le programme X-37 américain, qui est une petite navette spatiale automatique avec son bras et qui va chercher des satellites. Enfin bref, la guerre de demain sera sûrement dans les satellites. Comme je le disais, ce besoin d'intégration toujours plus recherché sur l'aéroterrestre. Encore une fois, les deux grandes manœuvres aériennes qui ont remporté, c'est le Kosovo et la Libye. Le Golfe, la première guerre du Golfe, rappelez-vous, en gros, 100 jours de bombardement pour 10 jours d'action terrestre. Hein. En fait, le terrain avait été bien préparé. Aujourd'hui, Libye, Mali, Irak, Syrie, Yémen. Ce qui est très intéressant à Yémen, c'est de voir que la coalition aérienne est menée par l'Arabie saoudite. C'est l'Arabie saoudite qui fait un ordre de bataille, qui fait les ordres journaliers à la coalition. Alors, ils ne sont pas complètement lâchés, puisque l'Américain continue dans le tasking des ciblages, ce qu'on appelle le ciblage, hein, aller chercher plutôt ça que ça, et sur l'information. Mais petit à petit, ces nations-là commencent à prendre leur autonomie dans la conduite de la guerre aérienne. Ça, c'est un élément à prendre en compte qui n'est pas négligeable. Et puis...
Excusez-moi, Golfe, ça s'écrit avec un E ou sans E?
Oui, ça c'est...
Je sais jamais.
C'est avec un E.
C'est avec un E.
C'est avec un E, tout à fait. Entre guillemets, j'aurais pu mettre le U ou un O avec un E. Oui. Et mon dernier commentaire sur les nouvelles briques technologiques, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, c'est une armée très technologique. On aurait pu parler un mot puisque de formation et bien sûr du personnel, puisque derrière tous ces côtés techniques, technologiques, il y a bien l'homme derrière la boucle. Mais toutes ces briques qui arrivent, l'hypervélocité, encore une fois, le futur missile nucléaire sera sans doute Mach 6, Mach 8. Parce qu'avec toutes ces défenses solaires, S-300 mais d'autres, pour contrer, eh bien, il faudra aller très vite et en plus évolutif. Donc un missile vite évolutif pour passer. L'hypervélocité, si vous lisez un peu les revues spécialités, tout le monde aujourd'hui travaille. Les Américains ont fait le X-51, 4 essais, arrivés à Mach 6 pour redécouvrir le statoréacteur que nous n'avons jamais perdu parce que notre missile nucléaire est statoréacteur. Les Américains estiment avoir retrouvé la capacité de stato pour dépasser, pour aller à Mach 6. Les drones, bien sûr, voilà, que ce soit civil ou militaire. Et aujourd'hui, on ne parle plus de capacité, mais de système de système. Vous êtes intégré dans un système. Vous êtes un AWACS, vous êtes un drone, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes relié, système, communication, transmission, analyse de l'information. On parle de système de système.
Bien, merci mon général. Ça soulève toute une série de questions, mais on va y revenir. Mais donnant la parole à M. de Lespinois, qui va nous introduire dans un système de système, je suppose, non ?
Oui, effectivement, vous allez retrouver beaucoup de choses que le général a dites dans mon exposé, et notamment la notion de système de système.